Le désespéré, chapitre 66. Quelques jours après, Marchenoir reçut de Périgueux la lettre suivante du notaire de sa famille, en réponse à une réclamation sans espoir, déjà vieille de plusieurs semaines. « Monsieur, j'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 25 mai, relative au règlement définitif de la succession de feu monsieur votre père, règlement que je n'ai pu mener plus tôt à bonne fin, malgré mon désir de vous être agréable, à cause des formalités à remplir et des difficultés que nous avons eues à réaliser la vente de l'immeuble. Tout étant enfin terminé dans les meilleures conditions possibles, je vous adresse, sous ce pli, le compte détaillé de la succession, duquel il résulte qu'il vous revient 2 500 francs. Comme vous m'avez laissé procuration et quittance en blanc, je vous envoie cette somme par lettre chargée. Veuillez agréer, monsieur et cher client, mes salutations empressées. Charlemagne Vaubidon. » Ce message inattendu produisit sur Marchenoir l'effet admirable de lui restituer aussitôt toute son énergie. Il y avait en ce Périgourdin un tel ressort qu'on pouvait toujours s'attendre à quelque surprenante manifestation de sa force, au moment même où il paraissait le plus renversé sur lui-même et le plus irrémédiablement déconfit. Dans la même heure, il se releva de toutes ses poussières et prit une résolution formidable, qu'il commença sur-le-champ d'exécuter. Puisque tous les journaux lui étaient fermés, et que son livre futur était une opération financière très lointaine, d'un insuccès à peu près certain, il allait risquer cette somme qui lui tombait du ciel, dans une entreprise des plus hasardeuses, mais capable, après tout, en supposant un sourire de la fortune, de rémunérer le téméraire. Car les ressources allaient lui manquer, et cette angoisse trop connue s'ajoutait à toutes les autres. Il décida de publier, à ses frais, un pamphlet périodique dont il serait l'unique rédacteur, qu'il remplirait de toutes les indignations de sa pensée et qu'il lancerait chaque semaine sur Paris comme un tison. Qui sait, Paris s'allumerait peut-être par quelque endroit. Approximativement, il calcula qu'avec son argent seul, sans la balance d'aucune recette fructueuse, il pourrait tenir environ 2 mois. Il faudrait vraiment que tous les démons s'en mêlassent pour que l'inouïe vocifération dont il méditait d'assaillir ses contemporains ne produisît aucun résultat. Une circonstance favorable, assurément, sortirait de l'ombre, jusqu'alors implacable, de sa destinée. Une commandite, une adhésion efficace quelconque, lui permettrait de pousser plus avant et de se rendre aussi redoutable par la durée que par la vigueur sauvage de ses revendications et de ses anathèmes. Et puis, il fallait surtout qu'il changeât d'hygiène morale, s'il tenait à ne pas périr, et l'activité endiablée d'une lutte si terrible décourageait infailliblement l'obsession mortelle qui l'assassinait. Il s'estima sauvé et courut chez le verdier, qui trembla de crainte, en voyant un semblant de joie sur le visage habituellement désolé de son ami. Ce fut bien autre chose quand il connut son dessein. « Mais, insensé, lui dit-il, tu veux donc tenter Dieu? Ton pamphlet sera étouffé par la presse entière. Tu perdras, sans aucun profit, l'argent que tu viens de recevoir, lequel vous ferez vivre une année entière, Véronique et toi, en te permettant d'achever ton livre. Il faudrait 50 000 francs de réclame et la complicité de tous les journaux pour lancer une pareille machine. Le marchand le plus habile et commissionné de la façon la plus onéreuse ne t'en vendra pas 10 exemplaires sur 100. » L'honnête séide, qui ne savait pas la détresse d'âme du désespéré, épuisa vainement les trésors de sa sagesse. Marchenoir avait pris son parti. Il fallut, en gémissant, préparer encore ce naufrage. Ils dépensèrent l'un et l'autre une activité si fiévreuse qu'au bout de 8 jours, en pleine semaine de la fête nationale, parut le premier numéro du « Carcan hebdomadaire », dans le format de l'ancienne lanterne, à couverture couleur de feu, offrant cet étrange dessin dicté par l'auteur à Félicien Rops, que le verdier lui avait fait connaître. Un chèvre-pied riant aux larmes, fixé par le cou à un immense poteau noir, allant de la terre au ciel, et ses immondes sabots sur un tas de morts. Ce pamphlet, qui eut le sort annoncé par le verdier, et que le silence des journaux éteignit sans peine, fut néanmoins remarqué de tous les artistes, et son insuccès postiche est encore regardé par quelques indépendants comme l'une des iniquités les plus remarquables de ce temps maudit. Il suffira d'en citer deux articles pour donner l'idée de cette œuvre de haute justice et de magnifique fureur qui n'allait à rien moins qu'à faire dérailler le train des opinions contemporaines. Si n'importe quel effort du verbe simplement humain pouvait accomplir ce désirable prodige. Voici donc le premier, par lequel Marchenoir ouvrit sa trop courte campagne. Le péché irrémissible. Ce soir, 14 juillet, s'achève enfin, dans les moites clartés lunaires de la plus délicieuse des nuits, la grande fête nationale de la République des vaincus. Ah, c'est peu de chose maintenant, cette allégresse de calendrier. Et nous voilà terriblement loin des anachroniques frénésies de la première année. Ce début, légendaire déjà, de la plus crapuleuse des solennités républicaines, je m'en suis aujourd'hui trop facilement souvenu devant l'universel effort constipé d'un patriotisme, évidemment indéfécable, et d'un enthousiasme qui se déclarait lui-même désormais incombustible. La nuit avait eu beau se faire désirable comme une prostituée, et l'entremetteuse municipalité parisienne avait eu beau multiplier ses incitations murales à la joie parfaite, on s'embêtait manifestement. Les pisseux drapeaux des précédentes commémorations flottaient lamentablement sur de rares et fuligineux lampions, dont l'afflictive lueur offensait le masque poncif des républiques en plâtre, que la goujate piété de quelques fidèles avait clairsemé sous des frondaisons postiches. Comme toujours, de nobles arbres avaient été mutilés ou détruits pour abriter de leurs expirants feuillages les soulographies sans conviction ou les sauteries en plein air achalandées par les putanas ambiants. Nulle invention, nulle fantaisie, nulle tentative de nouveauté, nulle infusion d'inédite jocrisserie dans cette imbécile apothéose de la canaille. On avait été trop sublime la première fois. Chaque acéphale avait tenu alors à se faire une tête pour honorer l'épouvantable salope dont la France moderne fut engendrée. La nation entière s'était ruée au pillage du trésor commun de la stupidité universelle. Mais à présent, c'est bien fini tout cela. On continue de célébrer l'anniversaire de la victoire de 300 000 hommes sur 80 invalides parce qu'on a de l'honneur et qu'on est fidèle au grand souvenir, et aussi parce que c'est une occasion de débiter de la litharge et du pissadane. On y tient surtout pour affirmer la royauté du voyou, qui peut au moins ce jour-là vautrer sa croupe sur les gazons, contaminer la ville de ses excréments et terrifier les femmes de ces insolents pétards. Mais la foi est partie avec l'espérance de ne pas crever de faim sous une république dont l'affamante ignominie décourage jusqu'aux souteneurs austères qui lui ont livré le plus bel empire du monde. Ce mensonge de fête idiote, ce puant remous de honte nationale dans le sillage de la banqueroute, me fit venir, une fois de plus, la pensée peu folâtre que cette misérable nation française est bien décidément vaincue de toutes les manières imaginables, puisqu'elle est vaincue, même comme cela, dans l'opprobre de ses infertiles réjouissances. Cette vomie de Dieu n'a même plus la force de s'amuser ignoblement. De toutes ses anciennes supériorités qui faisaient d'elle la régulatrice des peuples, une seule, en vérité, lui est demeurée, mais tellement méconnue d'elle-même, tellement méprisée, décriée, déshonorée, jetée à l'égout, qu'il se trouve que c'est précisément comme une autre façon d'être vaincue qu'elle a inventée, ayant trouvé le moyen de faire tourner à son irréparable déconfiture l'unique richesse qui pouvait encore payer sa rançon. La France est vaincue militairement et politiquement, en Orient comme en Occident. Elle est vaincue dans ses finances, dans son industrie et dans son commerce. Vaincue encore scientifiquement par un tas d'étrangers, dont elle ne sait pas même utiliser les découvertes. Elle est vaincue partout et toujours, à ce point de ne pouvoir jamais, semble-t-il, se relever. Elle n'a pas même su conserver la supériorité du vice. Les plus irréfragables documents attestent que des villes protestantes, telles que Londres, Berlin ou Lausanne, ont le droit de considérer comme rien la juvénile débauche de Paris, où le voluptueux repli d'une savante cafardise est à peine soupçonné. Ah, nous sommes fièrement vaincus, archi-vaincus de cœur et d'esprit. Nous jouissons comme des vaincus, et nous travaillons comme des vaincus. Nous rions, nous pleurons, nous aimons, nous spéculons, nous écrivons et nous chantons comme des vaincus. Toute notre vie intellectuelle et morale s'explique par ce seul fait que nous sommes de lâches et déshonorés vaincus. Nous sommes devenus tributaires de tout ce qui a quelque ressort d'énergie dans ce monde en chute, épouvantés de notre inexprimable dégradation. Nous sommes comme une cité de honte, assise sur un grand fleuve de stupre, descendue pour nous des montagnes conspuées de l'antique histoire des nations que le genre humain a maudite. Mais enfin, une supériorité nous reste. Une seule, incontestable. Il est vrai et absolu. La supériorité littéraire. Ascendant tellement victorieux que personne au monde ne prend plus la peine de l'affirmer, et que tout ce qui est capable d'une vibration intellectuelle, en quelque lieu que ce soit, sollicite humblement une niche à chien sous le gras évier de la cuisine où se condimente la littérature française. On pourrait croire que la France, éperdue de gratitude, ne sait plus de quelle duvet de phénix renaissant capitonner le lit de la demi-douzaine d'enfants merveilleux qui lui font cette suprême gloire. On devrait supposer, au moins, qu'elle les comble de richesses et d'honneur, et qu'ensuite elle se déclare tout à fait indigne de lécher la trace de leurs pas. Elle les fait simplement crever de misère dans l'obscurité. Elle n'a pas assez de mépris et d'avanie assez énormes pour les abreuver. Depuis Baudelaire jusqu'à Verlaine, toutes les abominations et toutes les ordures ont été versées en cataractes de déluge sur tous les fronts de lumière. Les journaux, pleins de terreur, se sont barricadés avec furie contre ces pestiférés d'idéal, dont le contact épouvantait la mufleurie contemporaine. Cette horreur est si grande, et la répression qu'elle exige est si attentive, qu'on a pu voir d'infortunés imbéciles, condamnés à périr de désespoir sur une mensongère inculpation de talent ou d'originalité. Mais cette guerre serait mal faite si elle se contentait d'être défensive. On a donc suscité des catins de lettres pour la supplantation du génie. 300 journaux vont en avant pour leur balayer le haut du pavé, d'une diligente nageoire, et le suffrage universel est leur dispensaire. Vieilles ou jeunes, croutonnantes ou chauves, liquides ou pulvérulentes, il suffit que leur bêtise ou leur ignobilité soit irréprochable. On ira même jusqu'à leur passer un semblant de fraîcheur, si c'est un ragoût de plus pour les séniles concupiscences dont l'hérétisme est ambitionné. À Baudelaire, agonisant dans l'indigence et quasi fou, on oppose par exemple un Jean Richepin, rutilant de gloire et gorgé d'or. Celui-là, d'ailleurs, parfaitement assuré d'être le premier d'entre les fils de la femme, juge sa part insuffisante et vocifère sous sa casquette contre le client détroussé. Le délectable Paul Bourget, préfacier chéri des baronnes, se dresse en sifflotant sur sa petite queue contre l'immense artiste Barbé d'Orvilly, qui se couche, formidable, dans le fond des cieux. Et il l'efface. Flaubert, à son tour, est dépecé et grignoté par la Caruse. Maupassant, engendré de ses testicules magnanimes, lequel, devenu poulain, promulgue littérairement le macrélage et l'étalonnat. Nul parmi les grands n'est excepté. Le boueur passe dans la rue et réclame les gens de talent. La reine du monde n'en veut plus. Elle a mal au cœur de ces tubéreuses. Il lui faut à l'heure présente exclusivement l'huile de bêtise et le triple extrait de pourrissoir qui lui sont offerts par les tripotentes mains des vendeurs de jus, que sa propre déliquescence est en train de saturer. Il serait long le défilé des médiocres et des abjects que le fromage de notre décadence a spontanément enfanté pour l'inexorable décoration du sens esthétique. Et d'abord, le plus glorieux de tous ces élus, le Jupiter tonnant de l'imbécilité française, Georges Honnet, le squalide bossu millionnaire dont la prose soumise opère une succion de 100 000 écus par an sur l'obscène pulpe du bourgeois contempteur de l'art. Immédiatement après, son illustre fils, Albert Delpy, le virtuose du foyer correct et le peseur vanté de fécules psychologiques. Lovelace châtré au strabisme innocemment des prédateurs. Puis une sale tourbe. Bonnetin, le Paganini des solitudes, dont la main frénétique a su faire écumer l'archer. Armand Sylvestre, l'éternel rhapsode du P, que ses latrinières idylles ont fait adorer des multitudes. Le virginal Fouquier, moraliste hautain, héritier du bois de lit de feu Phédo, ferré aux quatre pieds sur toutes les disciplines conjugales et juge rigide en matière de dignité littéraire. L'aquatique Mendès, au squame d'azur, ami de Judas par charité et lapidateur de l'adultère par esprit de justice, espèce de bifron sémite à double sexe, l'un pour empoisonner, l'autre pour trahir. Dumas fils, le législateur du divorce et du relevage, qui inventa de remplacer la croix par le spéculum pour la rédemption des sociétés. Alphonse Daudet, le tartarin sur les Alpes du succès, pour avoir pris la peine de naître copiste de Dickens. Eunuque trop fécond qu'il trouve le moyen de tronçonner encore depuis 15 ans. Les deux batraciens oraculaires, Wolf et Sarcey, de qui relèvent tous les jugements humains et dont la disparition calamiteuse, en la supposant conjecturable, produirait immédiatement l'universelle cécité. Enfin, pour n'en pas nommer 50 autres, Ernest Renan, le sage entripaillé, la fine tinette scientifique, d'où s'exhale vers le ciel, en volute redoutée des aigles, l'onctueuse odeur d'une âme exilée des commodités qui l'ont vue naître, et regrettant sa patrie au sein des papiers qu'il en rapporta, comme des reliques à jamais précieuses pour l'éducation critique des siècles futurs. Après cela, que voulez-vous qu'il fasse, le petit troupeau des vrais artistes, qui ne savent rien du tout que frémir dans la lumière, et qui ne furent jamais capables de cuisiner les gros ragoûts de la populace? Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, 5 ou 6 à grand-peine, et l'immonde avalanche a peu de mérite à les engloutir. Ce serait assez pourtant si la France avait un reste de cœur pour lui restituer intellectuellement la première place. L'Europe n'a aucun écrivain vivant parmi les jeunes à mettre en balance avec 2 ou 3 romanciers de génie qui périssent actuellement de misère dans le cachot volontaire de leur probité d'artiste. La mort de Dostoïevski a fait l'universel silence autour de Paris, et Paris, à genoux devant les cabotins qui le déshonorent, n'a pas même un morceau de pain à donner à ceux-là qui empêchent encore son vieux bateau symbolique de chavirer dans les étrons. si ce n'est pas là le péché irrémissible dont il est parlé dans l'Évangile, je demande ce qu'il peut être, ce fameux péché. Ce blasphème contre l'Esprit que rien ne pourra, dit-on, faire pardonner. Il n'est pas croyable que la Providence ait fait des hommes de génie tout exprès pour être vomis. L'aventure, je le sais bien, est arrivée à un fameux prophète. Mais cette vomissure s'est ramassée d'elle-même et s'en est allée parler à la plus terrible ville de tout l'Orient qui l'a écoutée avec respect. Paris n'aurait écouté Jonas d'aucune manière, et cet infortuné serviteur de Dieu eût été peut-être forcé de supplier son requin de le réavaler. Les hommes assez malheureux aujourd'hui pour être de grands écrivains doivent attendre la mort et la désirer diligente et sûre, car leur vie est désormais sans saveur comme sans objet. Tout ce qu'ils pourraient faire, en les supposant des saints, serait de supplier le Dieu terrible, et trop longanime, de les considérer à son tour comme moins que rien, et de ne pas ouvrir pour leur vengeance les stercorales écluses qui menacent évidemment Paris du seul déluge qui les méritait, et qu'on s'étonne de voir si obstinément fermées. L'autre article, qui parut dans le sixième et dernier numéro du Carcan, fut pour Marche Noire la plus atroce de toutes les dérisions de son enragé destin. Cet article eut un succès retentissant, énorme. Et ce succès lui fut inutile. La recette du numéro, le seul qui se soit vendu, ne couvrit qu'à peine ses derniers frais, sans lui donner aucun moyen de continuer. L'imprimeur, plein de défiance et peut-être menacé, refusa obstinément tout crédit. Le pamphlétaire vit ainsi la fortune se dérober en riant au moment même où elle paraissait s'offrir, et dut renoncer définitivement à toute espérance, avec l'aggravation de cette cuisante certitude que son triomphe aurait été assuré s'il avait eu la pensée de débuter par ce grand coup. L'hermaphrodite prussien, Albert Wolff. Mercredi dernier, je m'excusais de parler d'un subalterne chenapan du nom de Maubec, alléguant que nul, dans le monde des journaux, ne le surpassait en ignominie. Je l'appelais, pour cette raison, roi de la presse. Quelques-uns ont trouvé cela excessif. On m'a reproché de m'être laissé emporter par mon sujet, d'avoir donné trop d'importance à ce drôle chétif, au préjudice d'Albert Wolff et de quelques autres, d'une bien plus aveuglante splendeur de saloperie morale. Je confesse que le reproche peut paraître fondé. Il est incontestable qu'à ce point de vue, le courriériste du Figaro, pour ne parler aujourd'hui que de celui-là, a plus de crédit et plus d'envergure. C'est sur le globe qu'il plane, ce condor d'abomination. Il soutire si puissamment, à lui seul, l'universelle pourriture contemporaine qu'il en devient positivement volatile et qu'il a l'air de s'enlever dans les nues. Mais sans prétendre l'égaler, on peut encore être diablement prodigieux, et c'est le cas du petit Maubec. D'ailleurs, tous ces monstres engendrés d'un même suintement verdâtre de notre charogne de société en copulation immédiate avec le néant sont tellement identiques par leur origine qu'on croit toujours contempler le plus horrible quand on les regarde successivement. Albert Wolff a eu son Plutarque en Monsieur Toudouze, romancier cynocéphale qui aurait pu se contenter d'être un impuissant de l'être, mais qui a choisi de faire bonne garde aux alentours du grand chroniqueur, comme si la pestilence ne suffisait pas. Le livre de ce chien est en effet un essai d'apothéose d'Albert Wolff. Certes, je peux me flatter d'avoir lu terriblement dans mon existence de 40 ans, mais jamais je n'avais lu une chose semblable. Ici, la bassesse de la flatterie tient du surnaturel, puisqu'on a trouvé le secret d'admirer un être, soi-disant humain, dont le nom seul est une formule évocatoire de tout ce qu'il y a de plus déshonorant et de plus hideux dans l'humanité. Il paraît que M. Toudouze est un riche qui n'a pas besoin de faire ce sale métier, que la plus déchirante misère n'excuserait pas. Mais la vanité d'un pou de l'être est incrustable et profonde comme la nuit de l'espace. C'est une épouvantante contrepartie de la miraculeuse puissance de Dieu. Et celui-là, qui s'en va chercher sa pâture au génitoire absent d'Albert Wolff, dans l'inexprimable espérance d'une familiarité à épouvanter des léproseries, est 100 fois plus confondant qu'un thaumaturge qui ranimerait de vieux ossements. Feu Bastien Lepage, que de lointaines ressemblances physiques et morales rendaient sympathique à Wolff, le peignit un jour dans l'ignoble débraillé de son intérieur. Ce portrait, aussi ressemblant que pourrait l'être celui d'un gorille, eut un succès de terreur au salon de 1880. La brutale, autant que précieuse médiocrité du peinturier avait trouvé là sa formule. Il fut démontré que Bastien Lepage avait été engendré pour peindre Wolff, et Wolff lui-même pour être étonné du génie de Bastien Lepage, dont la destinée fut dès lors accomplie, et qui promptement s'alla recoucher le premier dans les puantes ténèbres de leur commune esthétique. Ce portrait devrait être acquis par l'État et conservé avec grand soin dans notre musée national. Il raconterait plus éloquemment notre histoire que ne le ferait un Tacite, à supposer qu'un Tacite français fût possible, et que la désespérante platitude de notre canaillerie républicaine ne le découragea pas. Il est assez connu des gens du boulevard, ce grand bossu à la tête rentrée dans les épaules, comme une tumeur entre deux excroissances. Au déhanchement de balourd allemand, qu'aucune fréquentation parisienne n'a pu dégrossir depuis 25 ans, des gaines goujates qui semblent appeler les coups de souliers plus impérieusement que l'abîme n'invoque l'abîme. Quand il daigne parler à quelques voisins, l'oscillation dextrale de son horrible chef ouvre un angle pénible de 45 degrés sur la vertèbre et force l'épaule à remonter un peu plus, ce qui donne l'impression quasi fantastique d'une gueule de raie émergeant derrière un écueil. Alors on croirait que toute la carcasse va se désassembler comme un mauvais meuble vendu à crédit par la maison Crépin, et la douce crainte devient une espérance. Quand le monstre est secoué de cette hystérique combinaison du hennissement et du gloussement qui remplace pour lui la virilité du franc rire. Planté sur d'immenses jambes, qu'on dirait avoir appartenu à un autre personnage, et qui ont l'air de vouloir se débarrasser à chaque pas de la dégoûtante boîte à ordures qu'elle ne supporte qu'à regret, maintenu en équilibre par de simiesques appendices latéraux qui semblent implorer la terre du Seigneur, on s'interroge sur son passage pour arriver à comprendre le sot amour-propre qui l'empêche encore à son âge de se mettre franchement à quatre pattes sur le macadam. Quant au visage, ou du moins ce qui en tient lieu, je ne sais quelles épithètes pourraient en exprimer la paradoxale, la ravageante dégoûtation. J'ai dit un peu inconsidérément que Maubec faisait repoussoir à Wolff et le rendait par là presque beau. Je n'avais alors que le punais Maubec devant les yeux et je ne démêlais pas très bien mes sensations. En réalité, ce vomitif gredin est surtout lépreux. Il porte sur sa figure, où tant de claques retentirent, la purulence infinie d'une âme récoltée pour lui dans l'égout, et il tient beaucoup plus de la charogne que du monstre. Wolff est le monstre pur, le monstre essentiel, et il n'a besoin d'aucune sanie pour inspirer l'horreur. Il lui pousserait des champignons bleus sur le visage, que cela ne le rendrait pas plus épouvantable. Peut-être même qu'il y gagnerait. L'aspect général rappelle immédiatement, mais d'une manière invincible, le fameux homme à la tête de veau qu'on exhiba l'an passé, et dont l'affreuse image a souillé si longtemps nos murs. Je connais un poète qui avait entendu « l'homme à la tête de Wolf » et qui n'en voulut jamais démordre. Il trouvait peut-être un peu moins de vivacité spirituelle dans l'œil du chroniqueur. À cela près, il les aurait crus jumeaux. La face entièrement glabre, comme celle d'un anamite ou d'un singe papillon, est de la couleur d'un énorme fromage blanc dans lequel on aurait longuement battu le solide excrément d'un travailleur. Le nez, passablement osseux, comme il convient au gibbosiaque, sans finesse ni courbure aquiline, un peu groinant à l'extrémité, solidement planté d'ailleurs, mais sans précision plastique, éveille confusément l'idée d'une ébauche de monument religieux que des sauvages découragés auraient abandonné dans une infertile plaine. En haut, des sourcils en forme de cirrus s'envolent dans un front de tartare, au-dessus d'une paire d'yeux cupides, bridés et pochetés de vieilles catins, devenues entremetteuses et patronnes achalandées d'un bas tripot. La bouche est inénarrable de bestialité, de gouaillerie populacière, de monstrueuses perversités supposables. C'est un rictus, c'est un vagin, c'est une gueule, c'est un suçoir, c'est un hiatus immonde. On ne peut dire ce que c'est. Les images les plus infâmes se présentent seules à l'esprit. On ne peut s'empêcher de croire que cette bouche de mauvais esclave ou d'espion décrié fut exclusivement faite pour engloutir des ordures et pour lécher les semelles du premier maître venu qui ne craindra pas de décrotter sa chaussure à ce mascaron vivant. Et c'est tout. Il n'y a pas de menton. La lippe pendante de ce gâteux de deux mains ne recouvre rien que le fuyant dessous d'entonnoir de son museau de poisson, qui disparaît ainsi, pour notre subite consternation, dans le plus ridicule accoutrement de cuistres sordides qu'on ait jamais rencontré sur nos boulevards. Le moral du sire est en harmonie parfaite avec le physique. Sa vie, dénuée de toute péripétie juponnière, pour l'excellente raison d'un hermaphrodisme des plus frigides, est aussi plate que celle du premier cabotin venu, dont la carrière aurait été sans orage. Albert Wolf est né juif et prussien, à Cologne, dans les bras de la grand-mère de Béranger. Parvenu à l'âge viril, pour lui dérisoire, on le trouve copiste d'actes chez un notaire, à Bonn, mêlé aux étudiants de l'université, dont il partage les études de physiologie. Il s'amuse même, dit son biographe, à décapiter des grenouilles, en attendant celle qu'en des jours meilleurs il devra manger. Puis, la vocation littéraire s'allumant tout à coup en lui comme une torche, il écrit « Guillaume le Tisserand », conte moral qui fit pleurer des familles, assure-t-on. Seulement, ces choses se passaient en Prusse, et son ambition ne pouvait se satisfaire à si peu de frais. Il lui fallait Paris et le café de Mulhouse, où se réunissait alors, vers 1857, la rédaction du Figaro hebdomadaire, foetus plein de santé du puissant journal qui règne aujourd'hui sur les cinq parties du monde. Il ne s'agissait pas précisément d'avoir du génie pour être admis à partager la fortune de ce perruquier. Il s'agissait surtout de faire rire Villemessant, et le balourd y parvint. Dès ce jour, il fut jugé digne d'entrer dans le groupe des farceurs, par qui la France est devenue, intellectuellement, ce que vous savez. Et il ne s'arrêta plus de monter, lentement, sans doute, à cause de la pesanteur de son gros esprit, mais avec l'infaillible sécurité du cloporte. L'héroïque Toudouze raconte, sans aucun agrément, cette plate odyssée de journaliste, jugé par lui 100 fois plus épique que l'Odyssée du vieil Ulysse. Il s'arrête çà et là, comme un âne gratté, pour exhaler d'idiotes réflexions admiratives à propos d'Aurélien Scholl, de Jules Nauriac, d'Alexandre Dumas, père et fils, ou de tout autre décrocheur de l'arrivage parisien. Au fond, toute cette histoire n'est rien de plus qu'un livre de caisse, où le comptable inscrit exactement les recettes et dépenses de son héros. On voit bien que c'est là l'essentiel pour le narré et le narrateur. Aussi, quelle exultation pour celui-ci quand il relate le succès d'argent de cette honorable brochure, les mémoires de Teresa, écrits par elle-même. Mémoires inventées par Wolf, en collaboration avec Blum et Péragallo. Et quels lyriques accents désolés quand sa conscience implacable le force à mentionner une perte de jeu de 195 000 francs. Cette catastrophe, arrivée en 1877, fut sans doute pour beaucoup dans la vocation de salonnier de l'hermaphrodite du Figaro. Il avait une minute pensé au suicide, mais il se tint ce raisonnement lucide qu'après tout, il serait bien imbécile de se faire périr comme un vulgaire décavé, quand il avait sous la main la riche mamelle de la vache à lait d'un salon sincère. La fortune recommença donc à rouler vers lui, à dater de cette réflexion salvatrice. Il devint très puissant, sa sincérité prussienne n'ayant plus de bornes, et du même coup, le malheur ayant fait tomber les squames qui enténébraient son génie, le simple pitre qu'il avait été jusque-là fit enfin place au grand moraliste, que consultent avec respect les magistrats les plus sévères et qui tient l'humanité contemporaine sous son arbitrage. Telle est sa dernière et probablement définitive incarnation. Albert Wolff crèvera dans la peau d'un moraliste révéré. Nous en sommes venus à ce point. Ce semblant d'homme, raté même comme eunuque, ce bas-bleu germanique, suivant l'expression de Glatigny, dispose d'une autorité si grande que le plus sublime artiste du monde relèverait de son bon plaisir et qu'il a le pouvoir de faire tomber des têtes ou de déterminer des verdicts d'acquittement. Ce venimeux juif de Prusse est le roi que nous avons élu dans notre inexprimable avilissement, roi respecté de l'opinion, comme Louis XIV ne le fut pas, et devant qui bave de peur toute la rampante crapule des journaux. Bismarck peut dormir tranquille. Son bon lieutenant est le maître en France. Il se charge de nous émasculer, comme il est émasculé lui-même, et de tellement nous mettre par terre qu'il ne reste plus qu'à nous piétiner comme un fumier de peuple, bon à engraisser le sol de l'universelle Allemagne de l'avenir. Lorsque la guerre de 1870 éclata, la situation de l'horrible drôle, non assise comme elle l'est aujourd'hui, ne fut plus tenable. Il se vit forcé de disparaître, ainsi que la plupart de ses compatriotes. Il erra, dit-on, par toute l'Europe, comme un chacal inassouvi, attendant que le belluaire de Prusse eût achevé sa besogne et que le vieux lion français, épuisé de vieillesse, fût abattu, pour venir l'achever de sa lâche gueule. Il n'osa pas immédiatement reparaître après la Commune. Il y avait encore pour lui trop de bouillonnement et trop de calotte dans l'air parisien. Il se fit imperceptible, il s'aplatit sous les meubles comme une punaise, il se coula dans la boiserie. Avec la ténacité d'Acarus de sa double race, il se cramponna au bitume, essuyant les crachats et l'ordure dont l'inondait le passant stupéfait de son impudence, voulant quand même s'imposer à Paris, qu'un atome de fierté lui eût conseillé de fuir. Humble, mais inarrachable d'abord, victorieux et superbe à la fin des fins. Il ne lui suffisait pas d'être implanté parmi nous. Il lui fallait régner par le Figaro. Et Vieillard naissant fut assez infâme pour le lui abandonner. On sait d'ailleurs la reconnaissance du légataire. Et le mot révélateur de la beauté de son âme, qu'il laissa tomber en manière d'oraison funèbre sur la montagneuse charogne de son bienfaiteur. Il venait de rembourser 1450 francs à la caisse du journal pour dette de jeu contractée envers le patron. Presque aussitôt, le télégraphe apporte la nouvelle de la mort de Villemessant. Après la première émotion, Wolf dit à ses camarades « Je n'ai jamais eu de chance avec notre rédacteur en chef. Si la nouvelle était arrivée quelques heures plus tôt, je ne payais pas les 1450 francs et la famille ne les aurait jamais réclamés. » Il ne reste plus qu'à rapprocher de cette anecdote le cantique d'allégresse des journaux allemands, apprenant la sinistre farce de naturalisation du chroniqueur et félicitant l'Allemagne d'être débarrassée d'une fière canaille aux dépens de cette imbécile France qui s'empressait de la recueillir. J'ai parlé de pertes au jeu. Une étude sur Albert Wolff ne serait pas complète si on oubliait de mentionner ce trait essentiel. Fort tranquille du côté des femmes, il se rattrape au tripot. Paris ne connaît pas de plus forcené joueur. Cette passion est telle qu'il fuit d'instinct tout cercle honorable, s'il en existe, et ne fréquente que d'infâmes tripots où il lui est plus aisé de la satisfaire. Délesté des autres joueurs, redouté des directeurs et prêteurs à cause de sa formidable situation au Figaro, il règne en despote, là comme ailleurs, abhorré mais inexpulsable. Profitant de la terreur qu'il inspire, il se fait ouvrir de démesurés crédits. Quand il a pris sa culotte, ainsi qu'il s'exprime, le prêteur est obligé, 9 fois sur 10, d'attendre qu'il ait regagné pour rattraper son pauvre argent, sans aucun espoir de retour du même service. Wolf ayant affiché son principe d'emprunter toujours et de ne prêter jamais. L'argent gagné, d'ailleurs, s'éloigne très promptement de nos rivages. Le bon Prussien envoie fidèlement son numéraire chez un banquier berlinois et s'empresse de brûler les reçus, ou de faire croire qu'il les brûle, pour se mettre hors d'état de retirer les sommes ou d'en négocier les titres avant l'échéance, complexe turpitude que je livre à de compétentes méditations. Rien n'égale la morgue insolente de ce dégoûtant vis-à-vis des misérables qu'il peut se flatter de terrifier par sa plume. Et rien non plus ne saurait être comparé à son humble réserve quand il est en présence d'un véritable homme que ses vils potins ne sauraient atteindre. On raconte qu'il a eu des duels. Je n'y étais pas, hélas, mais je doute fort qu'il en accepte désormais. Le temps n'est plus où il avait besoin de réclame. Puis l'âge descend sur ce monstre, comme il descendrait sur le front auguste d'un patriarche. Certaines choses qu'il sait bien va peut-être s'aggravant de jour en jour, et plus que personne, le virginal Albert Wolff doit craindre d'être enfilé. On sait que je n'ai pas l'âme ouverte à de bien enivrants espoirs, et que je n'attends aucune propre chose d'un avenir même éloigné. Pourtant, s'il nous venait une seule minute d'énergie et de généreuse révolte contre l'effroyable vermine qui nous dévore, il me semble qu'on la devrait employer, cette bienheureuse minute, à l'expulsion immédiate de ce Prussien de malheur, qui nous empoisonne, qui nous souille, qui nous conchit à son plaisir, qui ose se permettre de nous moraliser et de nous juger, comme si ce n'était pas assez de la rage d'avoir été vaincu et piétiné par 1 million d'hommes, et qu'il nous fallut encore avaler la suprême honte d'être opprimé par cette vieille salope, sans esprit, ni cœur, ni sexe, ni conscience, plus pestilentielle en sa personne que les croupissants détritus de tout un peuple en putréfaction. S'il arrive enfin, le 3 fois désirable hoquet du dégoût sauveur, il faudra se jeter sur les balais, sur les pelles, sur les chenets, sur les fouets et les fléaux, sur tout objet propre à l'extirpation d'un vénéneux malfaiteur, et rejeter par-dessus la frontière, avec d'irrémédiable malédiction, cette vomissure allemande, cette ordure de l'ennemi, cette ineffable monstruosité physiologique et morale, qu'un siècle de gloire ne nous absoudrait pas d'avoir supporté. Chapitre 67. Une misère plus noire que jamais s'abattit alors rue des Fourneaux. Et pour que rien ne manquât aux affres d'agonie mortelle qui allaient commencer, le verdier disparut brusquement de la vie de Marchenoir. Cet être sublime, voyant l'imminence et l'énormité du péril, se détermina, sans avertir, à vendre le mobilier peu considérable et la collection de livres qu'il possédait, et, après avoir donné l'argent à son ami, à s'en aller à la campagne au fond de la Bourgogne, chez une vieille tante qui le réclamait depuis des années. Cette parente lui gardait une petite fortune dont il était l'unique héritier, et le verdier serait à son aise un jour. Mais elle n'entendait pas lui envoyer d'argent pour le faire subsister à Paris, lui déclarant sans cesse qu'elle tenait à l'avoir auprès d'elle pour lui fermer les yeux, et qu'en Bourgogne, il vivrait, plantureusement, dans la maison qui devrait lui appartenir après sa mort, comme s'il en était déjà le maître absolu. Le verdier calcula qu'il serait ainsi plus utile à Marchenoir, et qu'il pourrait aisément lui envoyer tous les mois un secours d'argent qui l'empêcherait toujours bien de crever de faim. Lorsque ce dernier apprit l'héroïque décision de son mamelouk, elle était irrévocable. Le verdier avait tout vendu et déposé sur la table du malheureux les quelques centaines de francs qu'il avait recueillis. Il n'y eut pas d'explosion. Marchenoir baissa la tête à la vue de cet argent, et de larmes lentes, issues du puits le plus intime de ses douleurs, coulèrent sur ses joues blêmes et déjà creusées. Le verdier, ému, s'approcha et le serrant dans ses bras avec tendresse, « Mon cher pauvre, lui dit-il, ne t'afflige pas, si tu veux que je m'éloigne en paix. C'est tout juste si j'ai la force de me séparer de Véronique et de toi. Je ne me suis défait d'aucun objet qui me fût réellement précieux. Et quand cela serait, qu'importe? Ignores-tu que ta vie m'est plus chère que n'importe quel bibelot qui soit au monde? D'ailleurs, n'avons-nous pas depuis longtemps une destinée commune? Je veux te sauver, afin de me sauver moi-même, entends-tu? Il faut que tu vives, et c'était le seul moyen. Nous serons séparés quelque temps. Qu'importe encore? Je souhaite du fond du cœur à ma bonne vieille tante, qui va certainement m'assommer beaucoup, toutes les prospérités imaginables. Mais il m'est impossible, avec le meilleur naturel du monde, d'oublier que je suis son héritier, et que sa fortune, un jour ou l'autre, nous appartiendra. Alors, Marchenoir, quelle existence avec Véronique dans cette campagne délicieuse où nous aurons notre maison! Quelle paix! Quelle sécurité parfaite! Mais encore, il faut vivre jusqu'à cette époque ignorée. Relève ton cœur. La délivrance est proche, peut-être. Et quand l'univers te rejetterait, tu as un fier ami. Je t'en réponds. Marchenoir, toujours sombre au fond de son attendrissement, répondit au consolateur. Il vaudrait mieux pour toi, mon dévoué Georges, que tu n'eusses jamais connu un homme si funeste à tous ceux qui l'ont aimé. Le malheur de certains individus est contagieux autant qu'incurable, et j'espère peu cette existence paisible que tu me montres dans l'avenir. Cependant, je ne veux pas te contrister de mes pressentiments noirs, qui peuvent, après tout, me tromper. Il y aurait une cruauté lâche et bête à te payer ainsi du service inouï que tu viens de me rendre. Véronique va rentrer dans quelques instants. Nous ferons un déjeuner d'adieu et je t'accompagnerai à la gare. Ah, mon vieux camarade, j'aurais rêvé mieux que tout cela. On m'a souvent accusé d'ingratitude parce que je refusais de vautrer ma conscience dans certaines mains qui s'étaient entrouvertes pour moi. Mais il est heureux tout de même que je sois né croquant, car je n'eusse pas encore été assez ingrat pour faire un bon prince. Beatius est dar quam accipere. Telle eût été, je crois, ma devise, et ce texte aurait fait ma majesté méprisable et mes pieds d'argile. Tu es, au moins, le roi de l'impertinence, indécrottable gueux, répartit l'autre. Et tu aurais pu me priver de ta sacrée devise qui n'a rien à faire ici. On ne sait jamais qui donne ni qui reçoit, ajouta-t-il profondément. Voilà ce que je pourrais t'apprendre, si tu ne le savais encore mieux que moi. Tu as sauvé ma peau dans un temps. Je m'efforce aujourd'hui de sauver ton esprit, parce que ton esprit m'est nécessaire pour ne pas me casser le cou dans les chemins noirs où nous pataugeons. Per multam merdam, comme disait Luther. Qu'as-tu à répondre à cela ? Les deux amis reprirent tant bien que mal un peu d'entrain et concertèrent de laisser croire à Véronique que le verdier s'absentait pour une affaire de famille et reviendrait sans doute bientôt. La vérité vraie pouvant occasionner une crise de désolation que ni l'un ni l'autre ne se sentait capable de supporter. Le verdier partit donc le soir même, laissant à son compagnon, désormais solitaire, cette accablante impression qu'il venait de s'embrasser pour la dernière fois et qu'il ne se reverrait plus. Chapitre 68. La loi salique ne fut jamais écrite, parce que c'était la loi vitale, essentielle, de la monarchie française, et que tout essai de rédaction l'eût délimitée. L'absolu est intranscriptible. Pour cette raison, le crime d'être pauvre n'est mentionné clairement dans aucun code, ni dans aucun recueil de jurisprudence pénale. Tout au plus, est-il classé parmi les simples délits relevant des tribunaux correctionnels et assimilé au vagabondage, qui n'est lui-même qu'une conséquence de la pauvreté. Mais ce silence est une sanction péremptoire de la terreur universelle qui refuse de préciser son objet. Indiscutablement, la pauvreté est le plus énorme des crimes, et le seul qu'aucune circonstance ne saurait atténuer aux yeux d'un juge équitable. C'est un crime tel que la trahison, l'inceste, le parricide ou le sacrilège paraissent peu de choses en comparaison et sollicitent l'attendrissement social. Aussi, le genre humain ne s'y est jamais trompé, et l'infaillible instinct de tous les peuples, en n'importe quel lieu de la terre, a toujours frappé d'une identique réprobation les titulaires de la guenille ou du ventre creux. Puisqu'on ne pouvait édicter aucun châtiment déterminé pour un genre d'attentat que les législations épouvantées ne consentaient pas à définir, on accumula sur le pauvre toutes les formes infamantes ou afflictives de la vindicte unanime. Pour être assuré de tomber juste, on empila sur sa tête la multitude des expiations, au milieu desquelles il était impossible de faire un choix sans danger de caractériser le forfait. Les indigents ne furent condamnés formellement ni au feu, ni à l'écartèlement, ni à l'estrapade, ni à l'écorchement, ni au pal, ni même à la guillotine. Nulle disposition légale ne précisa jamais qu'on dut les pendre, les émasculer, leur arracher les ongles, leur crever les yeux, leur entonner du plomb fondu, les exposer enduits de mélasse au soleil de la canicule, ou simplement les traîner, dépouillés de leur peau, dans un champ de luzerne fraîchement fauché. Aucun de ces charmants supplices ne leur fut littéralement appliqué, en vertu d'aucune explicite loi. Seulement, le génie tourmenteur, qui s'est appelé la force sociale, a su rassembler pour eux, en une gerbe unique de tribulations souveraines, toute cette flore éparse des pénalités criminelles. On les a sereinement, tacitement excommuniés de la vie, et on en a fait des réprouvés. Tout homme du monde, qu'il le sache ou qu'il l'ignore, porte en soi le mépris absolu de la pauvreté, et tel est le profond secret de l'honneur, qui est la pierre d'angle des oligarchies. Recevoir à sa table un voleur, un meurtrier ou un cabotin est chose plausible et recommandée, si leurs industries prospèrent. Les muqueuses de la considération la plus délicate n'en sauraient souffrir. Il est même démontré qu'une certaine virginité se récupère au contact des empoisonneurs d'enfants, aussitôt qu'ils sont gorgés d'or. Les plus liliales innocences offrent, en secret, la rosée de leurs jeunes vœux aux rutilants minotaures, et les mères les plus vertueuses pleurent de douces larmes à la pensée qu'un jour, peut-être, cet accapareur millionnaire, qui a ruiné 100 familles, aura la bonté de s'employer à l'éventrement conjugal de leur cher enfant. Mais l'opprobre de la misère est absolument indicible, parce qu'elle est, au fond, l'unique souillure et le seul péché. C'est une coulpe si démesurée que le Seigneur Dieu l'a choisie pour sienne quand il s'est fait homme pour tout assumer. Il a voulu qu'on le nommât, par excellence, le pauvre et le Dieu des pauvres. Ce goulu sauveur, homo devorator et potator, comme le désignaient les Juifs, qui n'était venu que pour se saouler et pour s'empiffrer de torture, a judicieusement élu la pauvreté pour cabaretière. Aussi, les gens honorables ont réprouvé d'une commune voix le scandale d'une telle orgie et prohibé dans tous les temps la fréquentation de cette hôtesse divinement achalandée. Voilà bientôt 2000 ans que l'Église préconise la pauvreté. D'innombrables saints l'ont épousée pour ressembler à Jésus-Christ, et la vermineuse proscrite n'a pas monté d'un millionième de cran dans l'estime des personnes décentes et bien élevées. C'est qu'en effet, la pauvreté volontaire est encore un luxe, et par conséquent n'est pas la vraie pauvreté que tout homme aborde. On peut assurément devenir pauvre, mais à condition que la volonté n'y soit pour rien. Saint François d'Assise était un amoureux et non pas un pauvre. Il n'était indigent de rien, puisqu'il possédait son Dieu et vivait par son extase hors du monde sensible. Il se baignait dans l'or de ses lumineuses guenilles. La pauvreté véritable est involontaire, et son essence est de ne pouvoir jamais être désirée. Le christianisme a réalisé le plus grand miracle en aidant les hommes à la supporter, par la promesse d'ultérieures compensations. S'il n'y a pas de compensation, au diable tout! Il est insensé d'espérer mieux de notre nature. Un plantigrade, doué de raison et contradictoirement privé d'espérance religieuse, est dans l'impossibilité la plus étroite d'accepter cette geôle d'immondice et de consentir qu'on le traite plus durement qu'un parricide pour avoir perdu sa fortune ou pour être né sans argent. S'il se résigne sans décalogue et sans eucharistie, on ne peut rien dire de lui, sinon qu'il est un lâche ou un imbécile. À ce point de vue, les nihilistes ont 100 fois raison. Que tout tombe, que tout périsse, que tout s'en aille au tonnerre de Dieu, s'il faut endurer indéfiniment cette abominable farce de souffrir pour rien. Hier soir, un millionnaire crétin, qui ne secourut jamais personne, a perdu 1000 louis au cercle, au moment même où 40 pauvres filles, que cet argent eût sauvées, tombaient de faim dans l'irréméable vortex du putanat. Et la délicieuse vicomtesse, que tout Paris connaît si bien, a exhibé ses tétons les plus authentiques dans une robe couleur de la 4e lune de Jupiter, dont le prix aurait nourri pendant 1 mois 80 vieillards et 120 enfants. Tant que ces choses seront vues sous la coupole des impassibles constellations et racontées avec attendrissement par la gueusaille des journaux, il y aura, en dépit de tous les bavardages ressassés et de toutes les exhortations salopes, une gifle absolue sur la face de la justice et dans les âmes dépossédées de l'espérance d'une vie future, un besoin toujours grandissant d'écrabouiller le genre humain. Ah, vous enseignez qu'on est sur la terre pour s'amuser. Eh bien, nous allons nous amuser, nous autres, les crevants de faim et les porte-loques. Vous ne regardez jamais ceux qui pleurent et ne pensez qu'à vous divertir. Mais ceux qui pleurent en vous regardant depuis des milliers d'années vont enfin se divertir à leur tour. Et, puisque la justice est décidément absente, ils vont du moins en inaugurer le simulacre, en vous faisant servir à leur divertissement. Puisque nous sommes des criminels et des damnés, nous allons nous promouvoir nous-mêmes à la dignité de parfaits démons pour vous exterminer ineffablement. Désormais, il n'y aura plus de prières marmonnées au coin des rues par des grelotteuses affamées, sur votre passage. Et il n'y aura plus de revendications ni de récriminations amères. C'est fini tout cela. Nous allons devenir silencieux. Vous garderez l'argent, le pain, le vin, les arbres et les fleurs. Vous garderez toutes les joies de la vie et l'inaltérable sérénité de vos consciences. Nous ne réclamons plus rien, nous ne désirons plus rien de toutes ces choses que nous avons désirées et réclamées en vain pendant tant de siècles. Notre désespoir complet promulgue dès maintenant, contre nous-mêmes, la définitive prescription qui vous les adjuge. Seulement, défiez-vous. Nous gardons le feu en vous suppliant de n'être pas trop surpris d'une fricassée prochaine. Vos palais et vos hôtels flamberont très bien quand il nous plaira, car nous avons attentivement écouté les leçons de vos professeurs de chimie, et nous avons inventé de petits engins qui vous émerveilleront. Quant à vos personnes, elles s'arrangeront pour acclimater leur dernier soupir sous la semelle sans talons de nos savates éculées, à quelques centaines de pas de vos intestins fumants. Et nous trouverons, peut-être, un assez grand nombre de cochons ou de chiens errants pour consoler d'un peu d'amour vos chastes compagnes et les vierges très innocentes que vous avez engendrées de vos reins précieux. Après cela, si l'existence de Dieu n'est pas la parfaite blague que l'exemple de vos vertus nous prédispose à conjecturer, qu'il nous extermine à son tour, qu'il nous damne sans remède, et que tout finisse. L'enfer ne sera pas, sans doute, plus atroce que la vie que vous nous avez faite. Mais dans ce cas, il sera forcé de confesser devant tous ses anges que nous aurons été ses instruments pour vous consumer, car il doit en avoir assez de vos visages. Il doit être au moins aussi dégoûté que nous, cet hypothétique seigneur. Il vous a sans doute vomi 100 fois, et si vous subsistez, c'est qu'apparemment il a l'habitude de retourner à ses vomissements. Tel est le cantique des modernes pauvres, à qui les heureux de la terre, non satisfaits de tout posséder, ont imprudemment arraché la croyance en Dieu. C'est le stabat des désespérés. Ils se sont tenus debout au pied de la croix depuis la sanglante messe du grand vendredi, au milieu des ténèbres, des puanteurs, des dérélictions, des épines, des clous, des larmes et des agonies. Pendant des générations, ils ont chuchoté d'éperdues prières à l'oreille de l'hostie divine. Et tout à coup, on leur dévoile, d'un jet de science électrique, ce gibet poudreux où la dent des bêtes a dévoré leur rédempteur. Zut alors, ils vont s'amuser. Manger de l'argent. Qui donc a remarqué l'énormité symbolique de cette locution familière? L'argent ne représente-t-il pas la vie des pauvres qui meurent de n'en avoir pas? La parole humaine est plus profonde qu'on ne l'imagine. Ce mot est étrangement suggestif de l'idée d'anthropophagie, et il n'est pas tout à fait impossible, en suivant cette contingente idée, de se représenter un lieu de plaisir, comme un étal de boucherie ou un restaurant bouillon, où se débiterait par portions la chair succulente des gueux. Les gourmets, par exemple, choisiraient dans la culotte, et les ménagères économes utiliseraient jusqu'aux abatis, tandis que des viveurs délabrés d'une noce récente se contenteraient d'un modeste consommé de leurs frères déshérités. On est étonné du tangible corps que prend un tel rêve quand on interroge ce propos banal. Tout riche, qui ne se considère pas comme l'intendant et le domestique du pauvre, est le plus infâme des voleurs et le plus lâche des fratricides. Tel est l'esprit du christianisme et la lettre même de l'Évangile. Évidence naturelle qui peut, à la rigueur, se passer de la sanction du surnaturel chrétien. C'est heureux pour les détrousseurs et les assassins que l'animal, soi-disant pensant, soit si réfractaire au syllogisme parfait. Il y a diablement longtemps qu'il aurait conclu à l'étripement et à la grillade, car la pestilence bien sentie du mauvais riche n'est pas humainement supportable. Mais la conclusion viendra tout de même, et probablement bientôt, étant annoncée de tous côtés par d'indéniables prodromes. Les riches comprendront trop tard que l'argent dont ils étaient les usufruitiers pleins d'orgueil ne leur appartenait absolument pas, que c'est une horreur à faire crier les montagnes de voir une chienne de femme à la vulve inféconde porter sur sa tête le pain de 200 familles d'ouvriers, attirée par des journalistes et des tripotiers dans le guet-apens d'une grève, ou de songer qu'il y a quelque part un noble artiste qui meurt de faim à la même heure qu'un banqueroutier crève d'indigestion. Ils se tordront de terreur, les richards cœurs de porc et leurs impitoyables femelles. Ils beugleront en ouvrant des gueules, où le sang des misérables apparaîtra en caillots pourris. Ils oublieront, d'un inexprimable oubli, la tenue décente et les airs charmants des salons, quand on les déshabillera de leur chair et qu'on leur brûlera la tête avec des charbons ardents. Et il n'y aura plus l'ombre d'un chroniqueur nauséeux pour en informer un public de bourgeois en capilotade. Car il faut indispensablement que cela finisse, toute cette ordure de l'avarice et de l'égoïsme humain. Les dynamiteurs allemands ou russes ne sont que des précurseurs, ou si l'on veut, des sous-accessoires de la tragédie sans pareille, où le plus pauvre et par conséquent le plus criminel des hommes, que la férocité des lâches ait jamais châtié, s'en viendra juger toute la terre dans le feu des cieux.